Il est tout pile 8h pardon sur Phare FM Lyon Dauphiné. Bienvenue à vous sur les ondes du 107.0. Et vous avez rendez-vous ce matin avec Philippe Viguier en ce dimanche 19 mai 2024 pour votre message plein de vie.
Plein de vie avec le pasteur Philippe Viguier.
Aujourd'hui, nous célébrons la Pentecôte, le jour de naissance de l'Église, notre anniversaire, où tout a commencé, lorsque Jésus a béni ses disciples avec l'habitation en eux du Saint-Esprit. C'est réellement un jour qui a changé le cours de notre histoire, le cours de l'humanité, rien de moins. Ah oui ? Je me souviens, quand j'étais jeune, des fois j'entendais des pasteurs qui disaient « Encore un message de Noël, mais qu'est-ce que je peux dire de plus ? Encore un message de la Pentecôte, mais qu'est-ce que je peux dire de plus ?» Et des fois, en tant que chrétien, on regarde le calendrier chrétien et on se dit « Mais qu'est-ce qu'on peut dire de plus ?» sur les jours qui ont façonné notre histoire et tout changé de notre vie. Des fois, je trouve qu'on est un petit peu endormi sur les réalités les plus belles et les plus fortes de notre histoire. Qu'est-ce que la Pentecôte change vraiment ? Enfin, c'est une question qu'il faut se poser. Dès la création, le Saint-Esprit était là et il bougeait sur toute chose. On voit ça en Genèse. Le Saint-Esprit est là dès le début. Donc, qu'est-ce que ça change à la Pentecôte ? Qu'est-ce que la Pentecôte change ? Le Saint-Esprit, c'était celui qui déjà donnait les dons spirituels. Lorsque Dieu invite Moïse et sa génération à construire un tabernacle, il va générer des dons spirituels pour des personnes pour construire le temple. Ah ben là, j'ai pas mis le bon verset, mais c'est Exode 31, 1 et 2. Vous pouvez me croire. 1 Samuel 16, 13. Quand David est consacré, qu'est-ce qui se passe ? Samuel prit la corne d'huile, le consacra par onction au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour-là et par la suite. David, pendant toute sa vie, avait sur lui le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour la gloire de Dieu sans l'aide du Saint-Esprit aujourd'hui ? On peut rien faire pour Dieu sans l'aide de son Saint-Esprit. Et c'était pareil dans l'Ancien Testament. Tu peux pas faire les œuvres dignes du ciel, dignes de Dieu, sans l'aide de Dieu. C'est la nature de notre relation avec lui. On est appelé à dépendre de lui, à le craindre, à vivre par la foi. C'est ce que Zacharie dit. Quand le peuple a pas d'argent, se dit « Mais comment est-ce qu'on va reconstruire le temple ?» Et il y a cet encouragement, alors il reprit et dit « Voici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par quoi ? Par mon esprit, ça a toujours été la même recette. » Même Jésus va dire à Nicodème « Avant la Pentecôte, tu peux pas naître de nouveau sans le Saint-Esprit. » C'était la réalité de tous les âges. On peut pas naître d'en haut, littéralement en grec, de nouveau, d'en haut, du ciel, sans que le Saint-Esprit fasse une œuvre dans le croyant. Alors qu'est-ce que ça change la Pentecôte ? Qu'est-ce que ça change vraiment ? Alors on voit que l'Esprit, il est là, mais l'Esprit n'habite pas sur la terre. L'Esprit ne demeure pas sur la terre comme il le fait aujourd'hui dans le temple que les croyants nous sommes. On voit l'Esprit qui est sur les gens, mais pas dans les gens. Et notamment l'accès au lieu très saint où Dieu demeure n'est pas accessible que par le grand prêtre, une fois par an. Et qu'est-ce que ça change alors ? Qu'est-ce que ça change tout ça aujourd'hui ? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça a changé ? Qu'on peut avoir l'habitation en nous de Dieu ? Le livre des Actes, qui est la base de notre histoire de l'Église, qui est le fondement, commence avec deux événements, chapitre 1 et chapitre 2. Ok, c'est un quiz, c'est lesquels ? L'ascension et la Pentecôte. C'est sur ces bases-là que nous pouvons aujourd'hui être une église. Et toutes les belles choses qui se passent dans le livre des Actes, avec les gens qui se convertissent de toutes les nations, pourquoi c'est possible ? Parce qu'il y a un roi qui a été reconnu comme roi de toutes les nations au ciel et qui invite les gens de toutes les nations à le suivre. Si Jésus n'était pas monté pour prendre ce trône, il n'y aurait pas ce que nous vivons aujourd'hui du salut de toutes les nations avec autant de force. Jésus disait aussi, si je ne monte pas, je ne peux pas vous envoyer mon aide. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui permet aux disciples de partir, d'avoir la force, d'avoir le courage et de convaincre les cœurs pour le salut dans le monde entier. Sans l'ascension, sans la Pentecôte, il ne pourrait pas y avoir ce qu'on vit aujourd'hui avec la force avec laquelle on vit. Et qu'est-ce qui se passe exactement quand Jésus monte au ciel, qui va bouleverser finalement l'équilibre cosmique de l'univers. Il y a quelque chose fondamental dans l'histoire de la Terre qui change quand Jésus monte au ciel. Alors c'est vrai que pour nous qui sommes plutôt cartésiens, on a du mal à comprendre que certaines lois qui régissent notre monde sont des lois invisibles. Et notamment, la Bible met en parallèle qu'il y a un lien entre le temple du ciel et le temple sur terre. On regarde ça, par exemple, en hébreu. Lorsqu'il y avait le culte qui se passait en Israël, il dit, mais c'est une ombre, c'est une réalité de quelque chose qui se passe au ciel. Et même Dieu, quand Moïse va à la montagne, Dieu lui montre lui-même le tabernacle. C'est pas juste qu'il lui donne sa parole, bah écoute, tu feras 2 mètres carrés là, tu feras un petit ange là. Non, il dit, regarde le temple du ciel et tu vas faire la même chose sur terre. Il lui montre un modèle qui existe. Le temple sur terre était possible parce qu'il y avait un temple au ciel. C'est ce que nous voyons, un culte qui n'est que la copie, l'ombre des réalités célestes. Moïse en avait été averti alors qu'il allait construire le tabernacle. Regarde, lui dit en effet le Seigneur, et fais tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. C'est quand même fascinant. Mais en réalité, Jésus possède un service bien supérieur, et ce d'autant plus qu'il est le médiateur d'une meilleure alliance fondée sur des meilleures promesses. Comme je disais, nous qui sommes plutôt scientifiques dans notre génération, on a du mal à comprendre que ce qui se passe sur terre, c'est possible à cause de la réalité d'un temple céleste. Et là, il y a quelque chose qui se passe au moment de l'ascension, qui s'est jamais passé dans toute l'histoire de l'humanité. Qu'un homme entre dans le temple du ciel. Et parce qu'un homme, Dieu fait homme, est entré dans le ciel, il peut y avoir un temple sur terre où Dieu entre dans l'homme. Le Saint-Esprit ne pourrait pas habiter comme il habite aujourd'hui si Jésus n'était pas dans le temple céleste rempli du Saint-Esprit. Dieu fait homme. Il y a un bouleversement cosmique qui se passe. Quand Jésus est monté, le temple céleste a une nouvelle définition. Où Dieu habite dans un homme. Et parce qu'au ciel, Dieu habite dans un homme, sur terre, Dieu peut habiter dans un homme. Par le Saint-Esprit. On ne peut pas comprendre le lien entre Jésus et le Saint-Esprit sans comprendre le lien entre l'ascension et la Pentecôte. Et quand on comprend tout ça, c'est un monde de richesses qui s'ouvre à nous. En Hébreux 9:8, il est écrit, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas révélé tant que le premier tabernacle était dressé. Tu l'as pas celui-là, Fiona? Je te fais confiance, hein. Comme je dis, ça fait quelques semaines, j'ai un peu la tête dans les nuages, mais c'est une bonne chose. Je suis fasciné par l'ascension. Le Saint-Esprit montrait par là, en parlant du nouveau sacerdoce, du nouveau temple, que le chemin du lieu très saint n'était pas révélé. Il y avait quelque chose de caché sur l'habitation de Dieu qui était voilé dans l'ancienne alliance, qui maintenant est révélé dans la nouvelle alliance. Et c'est le Saint-Esprit qui en témoigne. Et le verset 11 nous dit, quant à Christ, donc de Hébreux chapitre 9, quant à Christ, il est venu comme grand prêtre des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création. Donc, au ciel, le temple fait partie déjà de la nouvelle création. Et Jésus, en ce moment, c'est le seul qui a un corps glorifié qui fait partie de la nouvelle création. La Bible nous dit qu'il est le premier des ressuscités et que ceux qui ont été ressuscités en lui attendent encore le jour final de la résurrection. Donc ce qu'on comprend, c'est que quand on a cette vision céleste des saints rachetés autour du trône, c'est un corps temporaire qui leur est donné. Ils n'ont pas encore goûté au corps glorifié qui attend que Jésus ait vaincu tous ses ennemis. Et ça, c'est le psaume 110, « Assis-toi à ma droite ». Jusqu'à ce que tu aies fini de faire de tes ennemis le marchepied. Tant que Jésus n'a pas vaincu la mort une fois pour toutes, nous ne pouvons pas avoir un corps glorifié. Jésus est monté au ciel pour inaugurer ce temple, cette nouvelle création. Et le Saint-Esprit est venu sur terre pour inaugurer aussi en nous le commencement de la nouvelle création. Qui commence avec notre esprit qui est racheté. Et un jour, notre corps va aussi être transformé. Alors pourquoi parler de tout cela aujourd'hui? C'est important, quand on parle de la Pentecôte, qu'on réalise en fait c'est quoi le but du Saint-Esprit si on doit trouver le noyau, le centre, le nucléus de son œuvre. Le but du Saint-Esprit, c'est de refléter la gloire du temple céleste sur terre. Le Saint-Esprit, son but, c'est de refléter dans nous qui sommes les croyants ce qui s'est passé en haut avec Jésus qui est glorifié dans toute sa gloire. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir une vie chrétienne qui a du sens avec le Saint-Esprit sans avoir compris l'ascension, Jésus assis à la droite du Père avec la plus haute place qui lui est donnée. Si ce n'est pas la place qu'on donne à Jésus, ben on ne comprend pas ce que le Saint-Esprit essaie de faire en nous. Parce que le Saint-Esprit, c'est ce qu'il va nous dire. Donc côté pratique, on va regarder en acte aujourd'hui, c'est ce que nous continuons, notre étude en acte. Et c'est vrai que quand on regarde le livre des actes, on voit le Saint-Esprit qui agit partout. Mais aujourd'hui, on va tracer le parallèle de manière un peu plus forte. Et comment le Saint-Esprit qui œuvre parmi les croyants affirme la suprématie de Jésus dans l'Église. L'œuvre du Saint-Esprit est pour témoigner de la gloire de Jésus-Christ. Nous allons regarder tout cela ce matin. Et l'Église est forte quand elle écoute l'Esprit pour craindre Jésus. On voit ça dans le passage. L'Église est forte quand elle écoute l'Esprit pour agir au nom de Jésus. Et l'Église est forte quand elle écoute l'Esprit pour imiter Jésus. Le passage en acte 9, verset 31, commence avec une formulation qui peut-être interpelle un petit peu. Alors, ce qu'on vient de voir dans les versets précédents, il y a la grande persécution sous Saul. L'Église a été dispersée, des temps très très difficiles. Et puis Paul se convertit, Saul devient Paul. Et puis là, il y a des temps de paix qui sont en train de... qui sont disponibles pour les apôtres, pour l'Église, et l'Église va en profiter pour former des disciples, pour se consolider. Les apôtres vont aller de ville en ville, ils vont partager l'Évangile, solidifier les disciples. Mais il y a cette formulation qui est quand même assez troublante, que la définition de l'Église, à cette époque-là, qui grandissait, qui était en bonne santé, c'est qu'elle marchait dans la crainte du Seigneur. La crainte du Seigneur, et elle grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. Les versets précédents nous disent que là, Luc, quand il fait référence au Seigneur, il fait référence à Jésus. En parlant de la résurrection, de la conversion de Saul, on voit les versets 27-28. Alors Barnabas le prit avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur. Donc il avait vu le Seigneur, on sait que c'était Jésus, qui lui avait parlé, avec quelle assurance il avait prêché à Damas au nom de Jésus. Donc on voit au nom de Jésus, et puis à la fin du verset 28, Saul allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Est-ce que l'Église aujourd'hui est définie et reconnue parce qu'elle marche dans la crainte du nom de Jésus? Ça n'interpelle pas un peu de formuler les choses comme ça? Vous voyez ici un petit peu le parallèle entre l'œuvre du Saint-Esprit qui témoigne de Christ glorifié à la plus haute place et puis le rôle de l'Église de suivre un Jésus comme roi redoutable, Seigneur de l'univers. Est-ce qu'on marche aujourd'hui avec la crainte du nom de Jésus parce que c'est ce qu'il mérite? Parce qu'il est assis à la plus haute place? Parce qu'il est le roi de l'univers, le maître de toutes choses? Traitons-nous le nom de Jésus avec révérence, avec soumission, avec l'honneur royal qui est dû à son nom? Le nom de Jésus dans l'histoire du christianisme, comme dans nos médias, est souvent abaissé. On préfère souvent un petit bébé Jésus, plutôt que le roi des cieux qui un jour va juger chaque être qui respire. On préfère parler d'un enseignant qui finalement est plutôt rastacool, à prendre ou à laisser, plutôt que celui qui a pris la position du roi dont la parole est si pleine d'autorité qu'elle définit la destinée de notre univers et chacun de ses contours. On aime parler de Jésus comme frère et ami, et c'est vrai, il est tout ça. Et la Bible nous dit qu'il y a un verset qui parle du cœur de Jésus, il est humble et doux de cœur. Jésus est approchable, Jésus est bon, Jésus est plein de grâce. Mais n'est-il pas le maître? N'est-il pas le Seigneur? N'est-il pas le nom devant lequel les démons tremblent? Lequel Satan se cache? Marchons-nous dans la crainte du nom de Jésus. La Bible ne nous appelle pas à avoir peur de Jésus, mais est-ce qu'on comprend vraiment l'autorité dont Jésus s'est revêti en montant à la plus haute place? que lui seul décide où va aller votre âme. Lui seul peut vous donner la récompense éternelle de vos œuvres. Lui seul est maître du royaume, du seul royaume qui perdure, alors que tous les autres vont s'effondrer. Lorsque nous écoutons le Saint-Esprit témoigne de Christ, et il témoigne de Christ dans sa gloire, pas d'un petit Christ, pas d'un Christ qu'on peut ignorer, pas d'un Christ qu'on peut mettre de côté, qu'on peut mépriser, mais d'un Christ qui mérite absolument toute adoration. On regarde à quelques passages, en 2 Corinthiens 3. Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui s'envoilent sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Nos petites versions de Jésus, des fois passifs, des fois sans masculinité presque, qu'on ignore de temps en temps, c'est pas le Jésus que le Saint-Esprit témoigne. Le Saint-Esprit témoigne d'un Jésus qui, quand tu tournes les regards vers lui, tu es transformé. Parce que sa gloire est tellement grande que tu peux pas rester le même. Quand tu acceptes Jésus pour qui il est vraiment, dans toute son autorité, dans cette place qu'il a acquise par sa mort, sa résurrection, son ascension, tu es transformé. De gloire en gloire, de gloire en gloire, ça s'arrête jamais. Parce qu'il a vraiment pris la place la plus haute et il ne va jamais cesser de nous tirer vers le haut. En Apocalypse, on voit Jean qui commence cette épître en disant qu'il est saisi par l'Esprit. Vous savez comment il décrit Jésus une fois qu'il est saisi par l'Esprit ? On va lire verset 14 jusqu'à 18. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise, et sa voix ressemblait au bruit des grandes eaux. Il tenait dans sa main droite sept étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil qui brille dans toute sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa alors sa main droite sur moi en disant « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Vous voyez comment le Saint-Esprit témoigne de Christ ? Du Christ glorifié sur la place d'autorité, de règne qu'il mérite. Ça, c'est qui Christ est vraiment. Alors oui, il est bon, oui, il est plein de grâce, oui, il est accessible, mais c'est lui qui a vraiment pris cette place qui est au-dessus de toutes les places. Et on peut l'aimer, mais on doit le craindre. La Bible nous dit que personne n'a jamais vu le Père. Et un théologien qui formule ça, je pense, de manière assez pertinente, dit dans l'Ancien Testament, en parlant de la Trinité, on voit le Dieu visible et le Dieu invisible. Enfin, on parle du Dieu invisible, le Père, mais à chaque fois que Dieu se manifeste, c'est qui ? Ben, c'est Dieu le Fils, parce que personne n'a jamais vu le Père. Donc, qui c'est qui marchait dans le jardin avec Adam et Ève ? Donc, ils sont allés se cacher tellement sa gloire ne pouvait être incompatible avec leur péché. Qui c'est qui s'est agenouillé quand la nuée est venue ? Et que Dieu a révélé qu'il était plein de grâce alors que son peuple, Israël, venait de construire le veau d'or. Moïse s'agenouille parce qu'il a vu une vision de Jésus-Christ. Et Ésaïe, quand il voit le trône de gloire, même l'apôtre Jean va dire, il dit ces choses en parlant « Saint, Saint, Saint » et le Seigneur. Il ne sait plus où se placer Ésaïe en disant « Je suis fait, je fais partie d'un peuple pécheur, je suis pécheur. Je ne suis pas digne de ce Christ assis sur le trône. » Et l'apôtre Jean nous rappelle, c'est de Christ dont il parlait, en Jean chapitre 12. Toutes les visions de gloire de l'Ancien Testament sont celles de Jésus-Christ. Jésus disait à Nicodème, qui c'est qui est monté, sinon celui qui est descendu ? Depuis la création, Jésus fait des allers-retours. Et nous avons à plusieurs reprises des images de sa gloire. Mais quel est le Jésus aujourd'hui que nous suivons ? Est-ce que c'est un petit Jésus ? Ou est-ce que c'est le Jésus dont le Saint-Esprit témoigne, qui est le roi des cieux? Et quand Jésus dit à ses disciples, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, ben vous savez quoi, il était déjà là avec ses rachetés depuis le début. C'est comme ça qu'il est aux côtés des siens. Aujourd'hui, si le nom de Jésus n'évoque pas de la crainte en toi, c'est soit que tu ne le connais pas, soit que tu l'as mal compris. Le nom de Jésus est doux, mais il est redoutable. Jésus est le roi des rois. Et il mérite chaque centimètre carré de cet univers. C'est le Christ de l'Ascension qui est monté au ciel pour s'asseoir à la droite de Dieu, dont le règne terrasse la mort et l'enfer, et dont le retour est imminent. C'est ce Jésus-là qui va revenir. On voit cette image de l'Église qui est forte, parce qu'elle marche avec l'aide du Saint-Esprit pour comprendre que Jésus est digne de crainte. L'Église est forte dans ce passage parce qu'elle écoute le Saint-Esprit pour craindre le nom de Jésus. On voit dans la suite du passage des miracles qui témoignent de la puissance de Christ par son peuple au travers de l'Esprit. Et là, dans les versets qui suivent, avec la guérison d'un paralytique, on voit que l'Église est forte quand elle écoute l'Esprit pour agir au nom de Jésus. On va lire ces versets qui suivent. Comme Pierre parcourait tout le pays, il descendit aussi rendre visite aux saints qui habitaient à Lydde. Il trouva un homme appelé Aîné qui était couché sur un lit depuis 8 ans parce qu'il était paralysé. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et fais toi-même ton lit. Aussitôt il se leva. Tous les habitants de Lydde et de Saron le virent et se convertirent au Seigneur. Pierre est rempli de l'Esprit. Alors je sais que le passage ne le dit pas, mais comment on le sait? On le sait parce que Jésus avait dit clairement aux disciples, quand vous serez remplis du Saint-Esprit, vous partirez. Et vous allez aller faire de toutes les nations des disciples. Parce que vous allez comprendre que la place que Jésus a prise mérite d'être partagée. Il y a un seul royaume, c'est évident, c'est celui de Christ. Il faut le rejoindre, c'est la bonne nouvelle. C'est un royaume qui nous invite aujourd'hui. Pierre est rempli du Saint-Esprit parce qu'il est conduit dans cette mission. Et là, on voit, il y a un moment de paix et les apôtres, ils vont de ville en ville. Ils vont affermir les disciples, ils vont affermir l'œuvre de Dieu. Jésus les avait promis de la Judée à la Samarie, à la Galilée, aux extrémités du monde. Alors, ils obéissent. Parce que Jésus est Dieu dans toute sa perfection. Enfin, l'Église, c'est quoi? C'est le vis-à-vis de Christ, l'épouse de Christ. Mais ne faut-il pas des millions de rachetés pour refléter toute la gloire de Christ? Si on veut refléter sur terre le temple qui est au ciel, il faut des millions et des millions de convertis pour refléter toutes les nuances de gloire de Jésus-Christ. Ce qui reflète le temple céleste, c'est que des gens sur terre de toutes les nations se convertissent parce que Christ le mérite. Et le Saint-Esprit ne va jamais se relâcher jusqu'à ce que Christ soit reflété dans l'Église dans toute sa gloire. Et là, on voit l'Église qui est dispersée par la persécution, qui a été dispersée par la persécution, mais qui obéit. Malgré la persécution, elle n'a pas arrêté. Et là, dans les temps de paix, elles saisissent les opportunités pour faire des disciples. Et là, on voit la même chose. L'Église a commencé avec cet ADN. Vous vous souvenez, l'Église de Jérusalem, avec 12 pasteurs à plein temps, les 12 apôtres, où il y a un enseignement qui est solide, les gens sont en train d'être nourris, d'être formés. Et après, quand ils sont envoyés, quand il y a la persécution, ils sont prêts. En France, quand on regarde notre histoire, il y a eu des périodes de persécution où l'Église n'était pas prête. Dans la période du désert notamment. On a eu des générations où les gens étaient dans la parole, où il y avait des gens qui pouvaient être formés. Et puis à un moment, ça devenait compliqué. Et la France est rentrée dans des années, ce qu'on appelle les années du désert. Et le milieu évangélique, enfin protestant, devenait un peu n'importe quoi. Si nous ne profitons pas des temps que nous pouvons pour nous former, quand la persécution va venir, ça va chauffer. Et des fois, on entend des chrétiens qui disent « Ouais, mais nous, on est peut-être moins zélés parce qu'on n'est pas persécutés. » L'Église de Jérusalem, l'Église primitive, n'était pas moins zélée quand elle n'était pas persécutée. Au contraire, elle dit « On a des opportunités qu'on n'aura pas demain, il faut les faire maintenant. » Et aujourd'hui, nous avons la liberté de pouvoir nous former. de pouvoir investir dans des disciples. On a la liberté de le faire. C'est le cœur de ce que le Saint-Esprit nous donne comme mandat aujourd'hui. Est-ce que je suis en train de me former? Est-ce que je suis en train d'accompagner les disciples? On ne sait pas les opportunités qu'on aura demain. Mais apprenons de la leçon de l'Église primitive qui, dans les temps de paix, se concentrait sur le discipulat. En tout cas, c'est beau. Pierre est capable de parcourir le pays, alors il le fait. On a la liberté de faire disciples, on va faire des disciples. Et Dieu bénit cela. Pierre agit comme apôtre au nom de Jésus, et là, on voit qu'il est face à un paralytique. Il va porter le nom de Jésus pour voir la guérison de cet homme. Verset 34, Pierre lui dit, « Aîné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi, fais toi-même ton lit. » Pierre agit au nom de Jésus. Là, le parallèle est fort. Vous vous souvenez d'une histoire de Jésus avec un paralytique? Et qui lui dit, « Prends ton lit et marche. » Mais est-ce que vous réalisez que c'est le même Jésus qui, au travers de Pierre, est en train de faire ce miracle? Ça n'a pas cessé. Au travers du Saint-Esprit, Jésus, aujourd'hui, est en train d'agir au travers de son peuple. Si nous sommes remplis de ce Saint-Esprit. Si les gens autour de nous ne sont pas capables de dire « c'est Jésus », c'est qu'on n'est pas assez rempli du Saint-Esprit. Jésus agit au travers de son Église. Parce que notre temple sur terre est le reflet du temple céleste quand on laisse le Saint-Esprit agir dans nos cœurs. Pierre est rempli du Saint-Esprit et il fait littéralement ce que Jésus faisait. Des fois, nous les chrétiens, quand on dit le nom de Jésus, c'est un petit peu une formule magique, quoi. Ah ben toi, t'as pris au nom de Jésus, moi j'avais oublié, ben, ta prière, elle sera mieux, quoi. Est-ce qu'on comprend vraiment ce que ça veut dire ? D'agir, de prier au nom que Dieu a déclaré lui-même comme au-dessus de tout autre nom. Alors, Dieu le Fils a toujours eu la place d'honneur. Mais avant qu'il vienne sur terre, il n'était pas connu sous ce nom de Jésus. Le nom de Jésus veut dire Dieu sauve. Et c'est un nom que Jésus a acquis par son obéissance, l'incarnation, la croix, la mort, la résurrection et puis l'ascension. Et c'est ce nom-là qui fait trembler les démons. Parce que c'est ce nom-là qui a vaincu la mort et l'enfer. Ce nom est celui de notre salut qui a été gagné au ciel, à jamais. Le nom du plus grand guerrier de tous les temps, du plus grand vainqueur, du roi le plus puissant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben voilà, on peut être des gens de plein de nations différentes. Qui sont unis sous la même bannière. Le résultat est là, Pierre agit par la puissance du Saint-Esprit et il y a des gens qui se convertissent. Les gens se convertissent à Christ parce qu'ils voient Christ au travers de Pierre et de ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Si Jésus-Christ est celui qui vous envoie, c'est pas pour œuvrer dans la médiocrité. C'est pour œuvrer dans la puissance du Saint-Esprit. L'Église est forte quand elle écoute l'Esprit pour agir au nom de Jésus et pour agir aussi en imitant Jésus. Et là, l'histoire qui suit est pleine de tendresse parce qu'on voit aussi un autre parallèle où Pierre, enfin je m'imagine à sa place, être en train d'imiter Jésus de manière tellement proche avec ce miracle de résurrection qu'il doit en avoir des frissons dans le dos. Lisons la suite à partir du verset 36. Avec la résurrection de Dorcas. Il y avait à Jaffa, parmi les disciples, une femme appelée Tabitha, ou Dorcas, qui signifie gazelle. Elle faisait beaucoup de bien et donnait de son argent aux autres. Elle tomba malade à cette époque-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre à l'étage. Or, Lydde est près de Jaffa et les disciples avaient appris que Pierre s'y trouvait. Ils envoyèrent donc deux hommes vers lui pour le supplier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec eux. À son arrivée, on le conduisit dans la chambre à l'étage. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent toutes les robes et les manteaux que faisait Tabitha quand elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps et dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux et quand elle vit Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Jaffa et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre resta quelque temps en Jaffa chez un tanneur qui s'appelait Simon. Ça vous rappelle pas une histoire? 500 points pour ceux qui donnent la bonne réponse. Le parallèle est avec quelle histoire? La fille de Jairus. La fille de Jairus, on voit ça en Marc chapitre 5, à partir du verset 35. On va lire le passage. Réfléchissez à tous les parallèles que vous pouvez voir. Il parlait encore quand des gens arrivèrent de chez le chef de la synagogue et lui dirent « Ta fille est morte. Pourquoi déranger encore le maître ?» Dès qu'il entendit cette parole, Jésus dit au chef de la synagogue « N'aie pas peur, crois seulement. » Et il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit du tumulte, des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit « Pourquoi faites-vous ce tumulte et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Ils se moquaient de lui, alors il les fait tous sortir, prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où l'enfant était couché. Il la prit par la main et lui dit « Talita Kumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Ils furent aussitôt remplis d'un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne le sache et demanda qu'on donne à manger à la jeune fille. J'imagine juste être à la place de Pierre, où voilà, il se fait appeler alors qu'il est ailleurs en disant « Voyez, cette femme qui est morte, elle a besoin de toi. » Et puis il s'approche et il voit qu'il y a du tumulte. Il dit « Mais j'ai besoin de paix, je vais prendre un petit groupe. » Et là, je ne sais pas à quel moment il commence à voir qu'il y a un parallèle qui est en train de se faire là. Puis là, il se met à côté de cette femme. Jésus avait dit « Talita » et là, il dit « Tabitha ». Talita Kumi, Talita lève-toi, Tabitha lève-toi. Et on voit Jésus qui lui-même est en train d'œuvrer au travers de son disciple, au travers du Saint-Esprit. Et c'est ce que Jésus veut faire au travers de nous, d'être vivant en nous pour connaître le même fruit, la même douceur. Et là, on voit des gens qui se convertissent, pas parce que Pierre est génial, mais parce que Pierre a montré Christ, parce que Pierre a été témoin de Jésus-Christ. On voit des parallèles, on voit des choses aussi différentes. Très souvent, on voit Jésus qui était un exemple de prière, mais là, Pierre s'agenouille, et Jésus, il n'a pas besoin, il a juste besoin de parler. Il prend la main, toi, tu te lèves. Parce que Jésus est Dieu fait homme. La Bible nous appelle à être des imitateurs de Dieu, des imitateurs de Jésus-Christ. Comme l'écrit Paul, aux Éphésiens, soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés, qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Aujourd'hui, on peut encore être des imitateurs de Dieu, parce que le Saint-Esprit est en nous. Et je ne sais pas si vous saisissez, mais quand Jésus est entré au ciel, il a permis qu'au travers du Saint-Esprit, le ciel descende sur terre. Et c'est pour ça que ce que le Saint-Esprit permet que nous faisions sur terre, en fait, c'est la réalité du ciel. L'unité dans la diversité, quand on chante comme ça, l'amour qu'on connaît ensemble, la joie, c'est le ciel qui descend sur terre quand nous sommes remplis du Saint-Esprit. Le temple céleste dont le voile est ôté sur terre. Lorsque nous sommes remplis de l'Esprit, lorsque nous vivons l'Esprit en proclamant Christ, en agissant par son nom, en imitant ce nom tout-puissant, on peut goûter la gloire du ciel sur terre, la douceur du ciel sur terre, l'harmonie et l'unité du ciel sur terre. Et je finis avec ce verset. Jésus, à nouveau, qui fait le lien entre le témoignage du Saint-Esprit et la gloire du Fils. « Quand sera venu le défenseur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le début. » Le Saint-Esprit, quel genre de témoignage pensez-vous qu'il rend de Jésus-Christ ? Jésus-Christ assis à la plus haute place. Et nous sommes appelés à être les témoins de ce Jésus-là, pas d'un Jésus plus petit que ça. Amen.
Ce message Pain de Vie avec le pasteur Philippe Viguier de l'église protestante évangélique de Villeurbanne-Cussey vous a été proposé par Phare FM Lyon Dauphiné. Pour en obtenir une copie, merci de téléphoner et de laisser un message au 04 69 00 81 50 04 69 00 81 50 ou bien de nous envoyer une demande par mail à lyon@pharefm.com. Merci.
Et je tiens à remercier encore une fois tous les pasteurs et toutes les églises qui jouent le jeu de Lyon et sa région pour vous faire partager tous ces petits messages chaque dimanche matin à 8h et à 10h sur Phare FM Lyon Dauphiné. Moi c'est David, je suis très heureux de vous retrouver ce matin avec le meilleur de la musique inspirée, qui va démarrer tout de suite avec Matt Marvan et son titre Forever I Will Sing. C'est en featuring avec Steph McLeod. Très bonne écoute à vous.
Forever I'll sing. So strong in the night, I hear a song. Forever I'll sing praises to you.
En louange sur Phare FM Lyon Dauphiné avec David.
J'espère encore en l'action de ta grâce. Là où l'échec prononce ses menaces, j'avance au nom de celui qui a affronté la mort pour qu'en sa grâce aujourd'hui j'espère encore, oh, tu es le Dieu de l'impossible, tu règnes encore, Jésus, ton nom est infaillible, tu règnes encore. J'espère encore en l'action de ta grâce. Là où le doute de la foi prend la place, j'avance au nom de celui dont on a brisé le corps à travers l'ombre et la nuit. J'espère encore, tu es le Dieu. Tu règnes encore, Jésus, ton nom est infaillible. Tu règnes encore. Alors que ce chant retentit pour ta gloire, ton esprit vient me rappeler ta victoire. Reconnaissant ta majesté, je déclare, tu règnes encore, alors que ce chant retentit pour ta gloire. Ton esprit vient me rappeler ta victoire. Reconnaissant ta majesté, je déclare, tu règnes encore.
venez d'écouter sur Phare FM Lyon Dauphiné, Tu règnes encore de Julien Adam.
Phare FM Lyon Dauphiné avec David.
Et oui, c'est David pour vous accompagner ce matin. C'est un réel plaisir pour moi. Et si pour vous, c'est un réel plaisir d'être sur Phare FM Lyon Dauphiné, eh bien, n'hésitez pas à le partager à travers un court témoignage, une courte dédicace que vous pouvez faire en vous enregistrant et en nous envoyant votre fichier par mail à lyon@pharefm.com pour pouvoir partager avec tous les auditeurs et toutes les personnes qui tomberaient sur Phare FM Lyon Dauphiné pour expliquer pourquoi vous choisissez d'écouter cette radio-là. Et tout de suite, sans plus tarder, on va s'écouter 10 minutes de louanges non-stop. Il y aura Sébastien Demeret, Jimmy Lahaye, il y aura les Be Witness et tout de suite c'est Leland avec leur titre Better World.
A better word. Et je m'abandonne dans ton amour de père. Je je suis prêt à tout. Fais ce qu'il te plaira, que ta volonté soit ma seule prière. Car je suis à toi, tu es mon Père, car je suis à toi. Je te remercie, quelle que soit ta volonté. Au plus profond de moi, je veux te choisir. Seigneur, entre tes mains, je remets mon esprit. Et je m'abandonne dans ton amour de Père. Je suis prêt à tout. Fais ce qu'il te plaira. Que ta volonté soit ma seule prière. Car je suis à toi. Tu es car je suis à toi, tu es mon Père.
Phare FM Lyon Dauphiné, la radio autrement.
La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix, viens et suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici. Je suis à toi.
Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours.
Suivre pas à pas,
jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours.
Jusqu'au bout,
je veux te suivre dans les bons,
les mauvais jours.
À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oui, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours.
Sébastien Demeret, Jimmy Lay avec La Voix du Seigneur m'appelle. Et il y avait aussi en featuring André Grise sur Phare FM Lyon Dauphiné, le 107.0, l'application mobile gratuite ou le site internet www.pharefmlyon.com. Tout de suite, on s'écoute Christ et ma joie du groupe Impact.